nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Jean-Luc Choplin, bonjour.
Bonjour, merci.
Merci de bien vouloir répondre aux questions de Canal Académie. Vous êtes le directeur du Théâtre du Châtelet, qui est une institution culturelle inscrite dans le paysage parisien depuis très longtemps, depuis 1862, et qui a, au cours de son histoire, connu de grandes heures de gloire, et qui a surtout joué un rôle d'innovation musicale et technique. Alors, aujourd'hui, comment est-ce qu'on dirige d'abord une institution culturelle comme le Théâtre du Châtelet, qui est une vieille maison?
1862, Napoléon III, la volonté de changer toute la géographie de Paris, avec toutes les percées, notamment le boulevard Sébastopol, ces deux théâtres qui se font face, le Théâtre du Châtelet et celui qui est connu aujourd'hui comme Théâtre de la Ville, qui sont construits par le même architecte, et cette idée de donner au cœur de Paris de grandes féeries, de grands spectacles, de permettre à ce que le quartier des Halles, en quelque sorte, puisse en même temps devenir un quartier de divertissement. Je crois que c'est un petit peu dans le même esprit que Londres, où l'on créait tous ces quartiers, enfin tout le West End, à la même période, et même jusqu'à la fin du 19e siècle. Alors, le Châtelet a toujours eu deux côté dans sa programmation. D'un côté, quelque chose de sérieux, quelque chose d'artistique, de sophistiqué. Alors, on peut citer comme ça, évidemment, par exemple, la création du Martyr de Saint-Sébastien de Debussy sur les textes de D'Annunzio avec Ida Rubinstein en 1913, ou la venue, il y a maintenant presque 100 ans, de la première saison russe avec Diaghilev et Nijinsky. Et puis, parallèlement à cela, le Châtelet a voulu s'ouvrir et permettre à un très large public de venir assister à des féeries.
Voilà, c'était le terme que vous avez utilisé tout à l'heure.
Oui, c'est-à-dire des grands spectacles à effet, avec machinerie, avec tableaux, avec animaux. C'était très connu, le Châtelet, les chevaux, les éléphants. Donc, si vous voulez, il s'agissait d'émerveiller, enfin, de raconter des histoires un petit peu extraordinaires. On peut citer très vite, au début du XXe siècle, les Jules Verne, avec Le Tour du Monde en 80 jours, avec Michel Strogoff, des centaines et des centaines de fois. Donc il y a ces deux facettes, si vous voulez, du théâtre. Et puis, je rajoute aussi une autre facette qui était les échanges internationaux. On vient de parler un tout petit peu de la première saison russe, mais aussi les échanges avec les États-Unis, Broadway notamment, Cole Porter, avec des spectacles comme Mississippi, qui est en fait le musical Showboat, qui sera baptisé à Paris Mississippi et qui sera présenté dès 1929, donc à la création. Vous savez, un musical sur des Noirs américains, donc déjà un petit peu différent de ce que l'on voyait d'habitude. Donc là aussi, une volonté de présenter des choses vraiment nouvelles, mais en même temps divertissantes. Et puis jusqu'à la guerre et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le Châtelet va devenir un petit peu le temple de l'opérette, donc va se spécialiser et perdre un petit peu la fonction sérieuse, dirais-je, ou culturelle. Et ceci a continué, je crois, jusqu'en 1974-75, où les dernières opérettes de Francis Lopez ont été données au Théâtre du Châtelet. Et puis, ensuite, la ville de Paris a repris, la ville de Paris a toujours été propriétaire des murs, mais la ville de Paris a repris, dirais-je, la direction, la gestion, et a souhaité faire un Châtelet qui soit large d'esprit, qui puisse s'adresser à tout le monde, mais qui retrouve un peu les deux aspects. Alors, pendant les 25 dernières années, je veux dire de 1980, on peut dire jusqu'à 2005, le Châtelet s'est spécialisé dans le lyrique. Le lyrique, si on se remet dans les années 80, c'est un petit peu le nouveau grand spectacle populaire avec les corrigis d'Orange, l'augmentation du nombre de publics. Il faut savoir aussi que l'on décide de construire un opéra populaire avec la Bastille. Enfin, dès 81, ce chantier est en route. L'opéra Garnier, on considère que c'est trop bourgeois, donc il faut ouvrir l'opéra.
L'opéra au public.
Le Châtelet prend cette veine, sans oublier toutefois quand même, et je crois que mon prédécesseur l'a très bien fait, Jean-Pierre Brossman, avec l'opérette, notamment Offenbach, qui est toujours considérée comme une opérette sérieuse, mais qui quand même est une opérette, la Belle Hélène, la Grande Duchesse de Gerolstein, donc ils vont être repris. Alors, ma nomination correspond à la volonté, et c'est le projet que j'ai présenté au maire de Paris, au moment où j'étais candidat pour la direction du Châtelet, était l'idée de revenir à ce que le théâtre était dès l'origine, à savoir ces deux facettes, sophistiquées et populaires. Un théâtre qui fait des événements à la place de féerie aujourd'hui, un théâtre ouvert sur le monde, un théâtre qui est très tourné vers la création et le monde aujourd'hui, un théâtre qui s'est allié la création contemporaine et le divertissement le plus original, inattendu, un théâtre qui crée des surprises.
Alors, quel est le genre théâtral à grand spectacle aujourd'hui qui remporte l'adhésion populaire ?
On est passé, en même pas maintenant trois saisons, on est passé de 180 à 200 000 spectateurs à 300 000 spectateurs. Donc on a considérablement accru le nombre de personnes qui viennent au Châtelet. Et puis on a, par la diversité de la programmation, par l'éclectisme de la programmation, un jour un concert de jazz, le lendemain un récital d'une grande cantatrice lyrique, le lendemain un spectacle complètement original et international comme Le Voyage vers l'Ouest, Monkey, Journey to the West, un opéra pop commandé à un groupe de musique anglaise Gorillaz et en même temps complètement tourné vers la Chine, le cirque chinois qui raconte cette épopée extraordinaire du singe pèlerin. Et puis le lendemain, Candide de Bernstein, Candide qui n'avait jamais été monté, cette œuvre absolument magnifique de Bernstein qui n'avait jamais été montée à Paris. Alors, ce mélange, ce foisonnement, ce feu d'artifice d'événements, si vous voulez, crée un lieu très particulier, un lieu plein de vie, original, un lieu où les gens sont heureux, les gens y vont pour le bonheur.
Vous aimez ces expériences de laboratoire quand même, de création, puisque vous avez, je pense au fête musical de Sainte-Baune, où vous avez rencontré justement des artistes d'univers différents, et donc votre programmation de cette année, de la saison 2008-2009, là, va vraiment dans ce sens. Quelle place faites-vous au cinéma dans le choix de vos spectacles ?
Alors je crois que le cinéma, c'est sûrement le spectacle le plus populaire d'aujourd'hui par sa diffusion, par son côté international, mondial. Et alors on essaye de trouver, et là c'est une des constantes de la programmation et de la politique que je mène, j'essaye de casser un petit peu les frontières entre les catégories, de faire tomber un peu les murs entre les choses. Alors, ce qui a été fait dans le passé, très souvent, c'est de demander à des directeurs de films de faire des mises en scène. Alors, on pense qu'ainsi, on permet d'ouvrir les choses. Alors, c'est vrai que parfois, c'est réussi, parfois, ça ne l'est pas. Mais là, j'ai décidé de franchir une étape supplémentaire qui est de prendre un film. Donc on a pris récemment La Mouche, qui est un film culte de David Cronenberg de 1986 sur une nouvelle d'un Français,
oui.
L'Angelan, La Mouche Noire, tirée des nouvelles de l'Antimonde. Donc on a pris ce film et on en a fait un opéra. On l'a commandé, on a fait une commande musicale à Howard Shore, qui est très connu aussi dans le cinéma américain pour Le Seigneur des Anneaux notamment. Et donc on a créé, si vous voulez, sur cette histoire absolument extraordinaire qui a servi de livret d'opéra, on a créé un opéra avec une demande qui était que celui qui avait fait le film culte, David Cronenberg, soit en même temps le metteur en scène. Donc c'est ça l'audace, oser, si vous voulez, aller un petit peu plus loin dans le spectacle aujourd'hui, c'est faire des propositions qui sont inattendues. Et c'est ça le spectacle, c'est de découvrir quelque chose, c'est une curiosité que l'on propose, c'est une ouverture d'esprit, c'est un nouveau chemin. Et ça ne peut se faire que si l'on oublie un peu d'enfermer les choses dans des catégories en disant est-ce que c'est du théâtre musical, est-ce que c'est de l'opéra, est-ce que c'est une comédie, en l'occurrence c'était très dramatique, donc c'était un véritable opéra. Donc voilà, on propose des ouvertures comme celle-là, et ça je le tiens, comme vous l'avez très justement signalé, sûrement de mes rencontres de la Sainte-Baume, ce lieu magique du sud de la France, le lieu de Marie-Madeleine, qui pendant 30 ans a pleuré, et du coup, d'où la source à l'intérieur de la grotte de la Sainte-Baume, la rencontre avec John Cage, par exemple, que j'avais invité là, et qui m'a appris peut-être dans une philosophie un petit peu orientale, mais en tout cas qui m'a appris à pas enfermer les choses, à rester très ouvert, à laisser une certaine fluidité, qui m'a appris, en reprenant un mot un peu de Deleuze, si vous voulez, de Deleuze et Guattari, c'est un peu à faire des choses de façon un peu rhizomatique, c'est-à-dire c'est un peu comme le bambou, on ne sait jamais trop où ça va sortir, en tout cas.
Vous faites preuve de beaucoup d'audace avec la programmation d'un spectacle là comme Welcome to the Voice prochainement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce spectacle ?
Là encore, c'est la volonté. Alors là, c'est une création contemporaine d'un compositeur, Steve Neave, qui est un compositeur d'aujourd'hui, qui vit d'ailleurs à Paris, qui est anglais d'origine et qui a fait une proposition d'un travail, si vous voulez, qui mélange et en même temps des grandes voix de la pop et du rock, à savoir Sting et du jazz, c'est-à-dire Sting et Elvis Costello, et des chanteurs lyriques dans un livret sur tout le fantasme de la voix, presque sur ce que je pourrais appeler le temps de la voix, quelque sorte. Et donc c'est cette confrontation des univers, cette rencontre entre ces voix qui ne sont pas faites pour se rencontrer, qui vont là devenir une aventure, un échange artistique. Alors c'est je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Enfin, on a des éléments d'appréciation parce que comme un cuisinier, on voit bien les ingrédients qu'on met dans le plat. Mais il faut encore que le soufflet monte, il faut que la levure des répétitions prenne. Et donc voilà, on est dans une impatience totale par rapport à ce projet.
Donc vous êtes à la recherche de spectacles ou d'opéra ou d'opérette ou de comédie musicale qui soient vraiment à la charnière de plusieurs genres. Vous l'avez très bien dit. Mais que pensez-vous de la vitalité théâtrale de la scène lyrique française ? Est-ce que vous trouvez toujours des spectacles, des opéras, des opérettes à la mesure de l'ambition du théâtre du Châtelet ou simplement de vos goûts ? Comment est-ce qu'on se situe là ?
Mais si vous voulez, ce qui est très curieux, c'est que l'offre lyrique sur Paris est très abondante. Mmh. Entre le Théâtre des Champs-Élysées, l'Opéra Comique, les deux maisons d'opéra, plus des expériences parfois populaires à Bercy ou au Grand Stade de France, plus la Péniche Opéra.
Enfin, la concurrence est rude.
C'est pas de la concurrence, c'est de l'abondance.
Oui.
Ce sont des propositions, si vous voulez, très, très larges. Et j'ai décidé d'être plutôt dans la rareté, dans essayer de trouver une proposition qui corresponde aussi à l'esprit du lieu. Je prends un exemple récent, nous avons fait Padmavati d'Albert Roussel. Padmavati est un opéra que presque tous les directeurs d'opéra que je connais ont rêvé de monter. Pourquoi ? Parce que c'est la réinvention par Roussel, en 1923, de la forme opéra-ballet laissée par Rameau. Et donc avec des grands ballets, des chants lyriques sur un très beau texte. Donc on a là un opéra français tout à fait extraordinaire qui n'a pas été monté depuis 1946. Un opéra à grand spectacle. Eh bien un opéra à grand spectacle, si vous voulez, déjà il fallait peut-être le choisir pour le monter. Ça, c'est une proposition donc Châtelet en quelque sorte. Et puis je l'ai rendu encore plus Châtelet en choisissant pour le réaliser. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que l'opéra-ballet aujourd'hui, le grand spectacle, etc. Et j'ai tout de suite pensé à Bollywood.
Oui.
Et en plus, Padmavati, ça se passe en Inde.
C'est parfait.
C'est parfait. Alors, Roussel n'était pas tombé dans l'orientalisme.
Oui.
Roussel n'avait pas fait des gammes.
On ne peut pas tomber non plus dans le cliché. Donc
non, il ne fallait pas tomber dans le cliché, mais là, au contraire, on était, si vous voulez, dans un rituel, puisque c'est cette reine de Chitor qui va se sacrifier sur un bûcher et qui va refuser d'être prise par le vainqueur qui s'est emparé du territoire. Donc c'est un rituel de sacrifice, c'est en même temps toute une confrontation entre les religions, entre l'hindouisme, les musulmans, c'est beaucoup de sujets condensés dans Padmavati, donc c'est un sujet très riche, très complexe. Et donc voilà, je pense que c'est ça le Châtelet, c'est l'intelligence du sujet, c'est l'originalité de la proposition qui est donnée, la surprise des rencontres que l'on peut faire. Donc tant que j'ai la capacité d'en inventer des choses comme ça, je crois que ça correspond assez bien à l'esprit de Paris. Vous savez, ce petit mot, ça c'est Paris, ça c'est le Châtelet. Jamais on a autant rempli le Châtelet. Je veux dire, là, nous avions en début de saison un spectacle de tango, Tanguera, une comédie musicale qui venait vraiment des quartiers, dans le cadre de notre ouverture au monde, des quartiers populaires de Buenos Aires. Donc, on avait cette comédie musicale qui, j'avais 3000 appels par jour pour réserver. J'imagine que pour bientôt Welcome to the Voice, je ne pense pas qu'avec Sting et Costello, bien qu'il y ait quatre grandes chanteuses lyriques, Marie-Ange Todorovitch, Sylvia Schwartz et d'autres, si vous voulez, je pense que là, on est dans un univers
dans l'événement
plus connu. Mais on prend aussi, on fait des choses, beaucoup plus difficiles à vendre, mais qui se sont bien passées jusqu'à présent. On avait monté, par exemple, la Pietra del Paragon de Rossini. Qui connaît la Pietra, la pierre de touche de Rossini, avec ce plasticien vidéaste extraordinaire, ce Méliès d'aujourd'hui, Pierrick Sorin. Première mise en scène de Pierrick Sorin. Bon. Voilà des aventures artistiques, des rencontres. Là, je prends les Vêpres de Monteverdi en janvier, Vespro alla Beata Vergine de Monteverdi, qui est une œuvre charnière, peut-être la plus belle des musiques chrétiennes qui n'ait jamais été composée. Et j'ai demandé, dans le cadre d'ailleurs de la célébration de la saison russe, je fais un peu du mini Diaghilev, je ne me prends pas pour Diaghilev, mais plutôt que de faire encore une fois du Nijinsky et les programmes que danse très bien le ballet de l'Opéra de Paris et d'autres et qu'on a vu 100 fois,
trouver sa différence.
À la rose, ou, etc. J'ai demandé à un des plasticiens russes d'aujourd'hui, les plus provocateurs et les plus nouveaux, Oleg Kulik, de venir mettre en abîme et de créer une expérience extraordinaire sur cette musique de Monteverdi. Donc, vous voyez, je me souviens toujours de cette très jolie phrase, de ce très joli mot de Rudolf Nureyev, avec qui j'ai beaucoup travaillé au Ballet d'Opéra de Paris, et qui me dit, il faut jamais faire d'hommage aux choses. Il fait hommage, dommage, fromage. Et donc là, c'est un peu la même chose, si vous voulez. Je fais pas un hommage comme ça directement à la saison russe, mais on crée une œuvre avec un des grands plasticiens russes d'aujourd'hui, et c'est une aventure. Est-ce que le public suivra? On va voir.
Bon, le théâtre du Châtelet fait aussi beaucoup pour le jeune public, pour ouvrir à la connaissance musicale régulièrement, un peu dans la tradition des concerts-colonnes qui avaient déjà été mis en place au théâtre du Châtelet.
C'est une des fonctions tout à fait primordiales, c'est la formation. Alors on a toute une série d'événements pour cela. D'abord on a les leçons de musique de Jean-François Zigel, que nous avons doublé même, tellement elles avaient du
succès.
Nous faisons créer des spectacles avec un jeune public. J'ai récemment monté même une œuvre dont le titre était comme ça très choquant et qui était d'une très grande dame qui vient de disparaître, Germaine Tillon.
Oui.
On avait monté Le Furfugbar aux Enfers, cette opérette créée à Ravensbrück. Donc, si vous voyez, le mot opérette créée à Ravensbrück, c'est deux choses qui s'entrechoquent violemment, qui font scandale. Et on l'a créée avec des jeunes lycéennes, mais qui n'étaient pas très loin de l'âge qu'avait Germaine Tillon quand elle a été déportée à Ravensbrück. Donc, c'est là encore, même avec le jeune public, si vous voulez, ce sont des expériences uniques et différentes que l'on essaye. Et je ne dis pas l'émotion de ces jeunes personnes quand elles ont été confrontées à ce texte, comment ce texte les a fait mûrir, comment ce texte les a rendus brusquement, enfin, leur a appris beaucoup de choses pour leur vie et en même temps sur le spectacle. Alors on apprend sur la musique, mais on apprend aussi sur la vie. On a de très nombreuses activités. Hier soir, nous Nous avions la première de Édouard Romain d'Argent. Dans l'après-midi, nous avions fait venir des classes entières. Cet après-midi, nous avons une matinée complètement pour les jeunes. Donc le théâtre sera rempli, donc 2000 jeunes élèves dans l'après-midi. Voilà, c'est ça le Châtelet, c'est un lieu très vivant. Au fond, au Châtelet, on désire avoir des questions pour toutes vos réponses.
Vous pensez que le rap pourrait rentrer au Théâtre du Châtelet ?
Encore une fois, il faut une rencontre, il faut qu'un créateur rappe, etc., sur un texte, avec un projet, tout est possible. Mais oui, au niveau poétique, au niveau du texte, au niveau musical, si c'était plus développé, moins répétitif peut-être, enfin je ne sais pas, mais en tout cas, les projets se font par collision de choses qui sont a priori inassociables. Donc j'attends toujours la rencontre prochaine de la chose que je vais pouvoir associer avec quelque chose d'autre. Voilà, il faut pouvoir être soi-même en questionnement permanent sur l'inattendu.
Merci Jean-Luc Choplin.
Merci à vous.